Bonsoir à tous. Après des années d'attente et moult rebondissements, ça y est, les Jeux Olympiques de Tokyo enfin lancés pour 15 jours. Nous reviendrons dès le début de ce journal sur la cérémonie d'ouverture en toute sobriété dans le contexte de pandémie. Et justement, le sport au menu du téléphone sonne ce soir. Marion Lourd, on enfile jogging et basket avec vous et vos invités.
Oui, bonsoir. Les Jeux Olympiques vous donnent peut-être des idées. Les piscines et les salles de sport ont rouvert et avec les vacances, vous avez le temps de vous remettre à faire de l'exercice. Comment, pourquoi et comment le faire bien? Vos questions 01 45 24 7000 par mail et sur l'appli France Inter.
A tout à l'heure Marion. À la une aussi ce soir, l'extension du pass sanitaire examiné au Sénat et dans le même temps, les syndicats qui montent au créneau face au risque de licenciement de leurs salariés. Nous serons aussi en Australie, la grande barrière de corail évite pour le moment la liste des sites en péril de l'UNESCO. Et puis, il était le roi de la farce et des canulars téléphoniques. L'humoriste Jean-Yves Lafesse s'est éteint à 64 ans. Aujourd'hui, retour sur son parcours en fin d'édition.
France Inter.
On était loin, très loin de la fiesta et des rythmes de samba comme à Rio en 2016. Mais les Jeux Olympiques de Tokyo ont bel et bien commencé au Japon avec la cérémonie d'ouverture ce midi au stade olympique. Spectacle saveur Covid, sans faste et sans personne ou presque en tribune. Mais la ferveur des athlètes était bien au rendez-vous. Retour sur cette cérémonie avec Farida Noir.
Un feu d'artifice flamboyant pour donner le coup d'envoi. L'empereur japonais Naruhito entre dans le stade olympique puis...
Mesdames et messieurs, le drapeau national du Japon.
Déployé par des soignants, symbole de la lutte contre la pandémie et des sauveteurs pour rappeler le séisme de 2011, vient l'hymne national interprété par une star japonaise, puis l'entrée des athlètes masqués qui saluent de la main un stade sans spectateurs. La délégation française se distingue avec un salto arrière de Samir Aït Saïd, l'un des deux porte-drapeaux, entrée applaudie par Emmanuel Macron en tribune. Imagine de John Lennon, hymne de fraternité, accompagne un globe terrestre modelé par des drones en lévitation au-dessus du stade.
Olympiade au 記念する Tokyo 大会 の開会 を宣言 します.
L'empereur japonais déclare les Jeux de Tokyo officiellement ouverts.
Olympique 成功 を繋ぐのは テニス選手 Osaka Naomi さん.
Puis la flamme olympique emportée par la tennisman Naomi Osaka qui enflamme la vasque. Les JO de Tokyo 2020 sont officiellement ouverts.
Farida Noir à Tokyo pour France Inter. Et si vous avez peut-être tendu l'oreille pendant le défilé des délégations, ces musiques que vous avez entendues sont extraites de jeux vidéo. Et pour le plus grand plaisir des fans qui ont joué à les identifier sur les réseaux sociaux, c'est à lire sur franceinter.fr. Une cérémonie source de souvenirs forcément pour Tony Estanguet, patron des JO de 2024 à Paris. L'ancien champion de canoë-kayak était notre porte-drapeau à Pékin en 2008.
C'était pour moi une grande émotion à plusieurs titres. D'abord parce qu'effectivement, ça m'a rappelé 2008 et cette cérémonie d'ouverture et même mes quatre cérémonies d'ouverture en tant qu'athlète, puisque j'avais défilé les quatre fois. Et c'est vrai que c'est en tant qu'athlète un moment vraiment à part qu'on ne peut vivre que pendant les Jeux Olympiques. Sinon, on a d'autres compétitions, championnat du monde ou coupe du monde, où on vit des moments très forts sportifs. Mais cette cérémonie d'ouverture, on défile avec tous les athlètes de tous les pays, tous les sports, c'est vraiment un moment qui est magique. Et puis, c'est aussi un moment d'excitation pour moi parce que je me projetais dans 3 ans. Et dans 3 ans, ce sera notre tour. Quand j'ai vu le drapeau japonais, je me suis projeté en me disant « Waouh, aïe, 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 dans 3 ans, ça va être à nous, ça va être génial. » Et ça, c'était aussi une émotion sympathique.
Le patron des JO de Paris 2024, Tony Estanguet, avec Jérôme Cadet. C'est donc parti pour 15 jours d'Olympiade. Et alors que nous entrerons demain dans le vif des épreuves, avec des breloques à la clé, entre autres en cyclisme sur route, en judo ou encore en escrime, cette question. Peut-on espérer des Jeux Olympiques propres, c'est-à-dire sans dopage? En tout cas, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, c'est un organisme indépendant qui va réaliser tous les contrôles antidopage de ces JO. Il s'agit de l'ITEA, l'agence de contrôle internationale, qui scrute l'ensemble des délégations depuis déjà plusieurs mois, Fanny Lechevestrier.
Et c'est l'un des grands changements dans la lutte antidopage, avec un travail lancé bien en amont des Jeux, explique Valérie Fourneyron, l'ancienne ministre des Sports et aujourd'hui présidente de l'ITEA.
On a construit ce qu'on appelle une évaluation des risques. Et donc 2 mois avant les Jeux, le CIO nous a laisser la délégation pour conduire nous-mêmes la suite des tests et donc mieux ajuster les mailles du filet.
En clair, des nations comme la Russie ou des sports comme l'haltérophilie se retrouvent aujourd'hui plus suivis que d'autres. La lutte antidopage qui expérimente aussi sur ces jeux de nouvelles techniques comme celle dite des taches de sang séché. La collecte des données de performance pourrait également à terme être un atout décisif, explique Benjamin Cohen, le directeur de l'agence.
On est en train de travailler avec deux centres de recherche britanniques pour développer un passeport de la performance, c'est-à-dire de la même manière qu'on suit les données biologiques d'un athlète sur le temps, on veut suivre ses performances pendant longtemps. La lutte antidopage, c'était il faut faire beaucoup de tests. Et aujourd'hui, on voit que non, il faut faire des tests de manière intelligente. Nos ressources sont limitées et donc il faut cibler le mieux possible. Cibler le mieux possible, il faut utiliser toutes ces données.
En attendant, pour la première fois, les échantillons prélevés sur ces jeux vont pouvoir être conservés durant 10 ans. Une épée de Damoclès supplémentaire au-dessus de la tête des tricheurs.
Fanny Lechevestrier du service des sports de France Inter. C'est maintenant au tour des sénateurs. Le projet de loi sanitaire, validé très tôt ce matin par l'Assemblée nationale, arrive ce soir au Palais du Luxembourg. Les sénateurs vont pouvoir apporter leurs pattes à ce texte qui porte entre autres sur l'extension du pass sanitaire. Dans le détail, le projet de loi prévoit qu'un salarié censé présenter le précieux sésame à son poste pourra être licencié s'il n'en a pas. Mais plusieurs syndicats dénoncent une atteinte à la liberté de travailler, comme le président de la CFE-CGC, François Omeril.
On trouve que c'est un dérapage, une transgression absolument insupportable, inacceptable, le fait d'avoir créé dans le Code du travail un motif de licenciement pour non-présentation du pass sanitaire. Là, on met sur le même plan le fait de ne pas pouvoir rentrer dans un cinéma parce qu'on n'aurait pas le pass sanitaire et le fait de perdre son travail, de subir une sanction financière, de perte de rémunération, au final de perdre son travail au motif de non-présentation du pass sanitaire. Quand le gouvernement dit « la vaccination est le meilleur moyen de lutter contre la pandémie », nous soutenons le gouvernement. Simplement là, on est totalement sorti du cadre. Autant il aurait pu rendre le vaccin obligatoire en population générale, nous, de notre côté, je le dis, on ne serait pas intervenu dans ce débat-là. Par contre, là, il dit ça n'est pas obligatoire, mais il crée des conditions de stigmatiser vis-à-vis du contrat de travail les individus qui feraient d'autres choix et qui, par ailleurs, pourraient se retrouver sans passe sanitaire pour d'autres raisons, qui peuvent être des raisons administratives ou techniques. C'est le principe que je conteste.
François Omeril de la CFE-CGC, joint par Delphine Simon. Ce fameux passe sanitaire exigé depuis mercredi pour aller au cinéma, au théâtre ou dans les lieux de loisirs va également devenir obligatoire à partir de début août pour les trajets longue distance. Il faudra donc être vacciné ou faire un test PCR avant de monter dans un autocar ou un TGV et rejoindre l'autre bout de la France. Un casse-tête que certains préfèrent éviter en optant pour la voiture de location. Exemple à Paris avec Morgane Moelle, reportage.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Je vais savoir s'il y a encore de la dispo sur le mois d'août.
Dans cette agence de location à Paris, de nombreux vacanciers viennent se renseigner, inquiets par le pass sanitaire dans les trains et les bus. C'est le cas de Romain qui passe en coup de vent pendant sa pause midi. Il doit partir début août avec sa femme et un autre couple dans la région toulousaine.
On avait plutôt bien bouclé le truc, on avait fait tous nos premières doses et on comptait les faire au retour des vacances, parce qu'au départ, il fallait attendre 6 semaines entre les deux doses. Bah finalement, donc c'est pas possible. Il y a la solution du PCR. Maintenant, se dire qu'il faut qu'on refasse des tests là-bas pour pouvoir prendre le retour, etc. C'est peut-être un peu compliqué, donc j'essaie de voir si une voiture, ça serait pas plus simple.
D'autres passent des coups de fil, ils se renseignent pour savoir s'il faut ou non un pass sanitaire pour louer une voiture.
On va pas vous demander le pass sanitaire, ça c'est sûr, ça me regarde pas si vous êtes vacciné, si vous avez fait qu'une dose, il y a aucun souci, ok.
Et les voitures commencent à manquer. Fatia Issa Abdi est responsable de l'agence Rent-a-Car à Bercy.
Il y a eu une montée de réservations depuis mardi, mercredi. On a encore quelques voitures, mais c'est des petites voitures. Mais tout ce qui est grosses voitures qui font de la route, non, j'en ai quasiment plus. C'est vraiment complet.
Pour cet été, 9 Français sur 10 prévoient ainsi de partir en vacances en voiture, mais seulement 5% optent pour la voiture de location.
Le reportage de Morgane Moelle. Des grandes vacances menacées, on le sait, par une quatrième vague de coronavirus. Avec une hausse des cas de 150% par semaine, l'épidémie pourrait toucher 50 000 personnes au début du mois d'août, selon le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy. Et même si les hospitalisations sont pour l'heure peu nombreuses, Santé publique France n'est pas beaucoup plus optimiste, car l'ampleur de la hausse des contaminations ne laisse présager aucun aucune amélioration, Sophie Becherel.
Pour la première fois depuis 15 semaines, l'augmentation des cas s'accompagne d'une nette augmentation du taux d'hospitalisation, note Santé publique France, plus 55% lors de la semaine du 12 au 18 juillet. Comme d'habitude, il y a un décalage de 2 à 3 semaines entre les contaminations et les entrées à l'hôpital. Il est trop tôt pour affirmer que les deux courbes se suivent, comme lors de la précédente vague. Ce soir, 872 patients sont en soins intensifs à cause du Covid. Beaucoup de ces nouvelles personnes infectées ont fréquenté des lieux où les mesures barrières ne peuvent pas être tenues, les bars ou les discothèques par exemple, ce qui fait dire à Jean-François Delfrécy qu'on devrait s'abstenir de fréquenter les boîtes de nuit, lieux de cluster par excellence. Comme avoir été infecté conduit à être immunisé, on pourrait se dire que laisser courir le virus permet d'augmenter l'immunité collective. D'autant qu'en parallèle, le rythme de vaccination va bon train. Pour Santé publique France, ce n'est pas une bonne idée. 20% des personnes âgées et des personnes à risque ne sont pas encore vaccinées, rappelle l'agence, sans qu'on sache d'ailleurs précisément la raison. La directrice de Santé publique France juge la couverture vaccinale insuffisante pour affirmer que le système de santé tiendra le coup. Elle encourage donc les Français à se faire vacciner. Quant aux gestes barrières, il faut les maintenir, selon Jean-François Delfrécy. À eux seuls, dit-il, ils pourraient réduire de 20% les hospitalisations.
Sophie Becherel, merci. Un dernier mot sur cette épidémie. Après Pfizer, l'Agence européenne des médicaments donne son feu vert à l'utilisation du vaccin anti-Covid Moderna pour les 12-17 ans dans l'Union européenne. Une enquête ouverte pour homicide sur conjoint dans le Pas-de-Calais après la mort d'une femme la nuit dernière dans la commune du Souich, à la frontière avec la Somme. La victime aurait été tuée à l'arme blanche par son compagnon dans ce qui s'apparente à une rixe familiale. Autre enquête ouverte cette fois par le parquet national antiterroriste après la diffusion sur internet d'une vidéo par Al-Qaïda. Nous vous en parlions dans le journal de 13h sur France Inter. Des images visant notamment la France et ses dirigeants. De ce côté, le ministère de l'Intérieur appelle les préfets à une vigilance toute particulière pour cet été. Plus de détails à retrouver sur franceinter.fr. Et puis en bref, toujours, le controversé projet de loi contre le séparatisme définitivement adopté cet après-midi par le Parlement. Il contient notamment des mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne et l'encadrement de l'école à la maison. Oui, c'est plus la saison des ventilateurs que celle des veillées au coin de la cheminée. Mais oui, c'est aujourd'hui, en cette fin juillet, au beau milieu de l'été, que le gouvernement dévoile son plan pour réduire la pollution liée au chauffage à bois. Pollution qui peut atteindre en hiver jusqu'à la moitié des émissions de particules fines en France. Et avec ce plan, l'exécutif veut diviser par deux cette pollution à l'horizon 2030, Sandy Dauphin.
Oui, car un feu de bois pendant 2 heures dans une cheminée traditionnelle, c'est comme rouler 2000 km avec un vieux diesel. Pour réduire de moitié cette pollution aux particules fines, le gouvernement va d'abord interdire dès l'année prochaine les cheminées à foyer ouvert dans les constructions neuves. Dans l'ancien, l'objectif est de remplacer 600 000 cheminées traditionnelles et vieux poêles par des versions plus performantes d'ici 2025, notamment par des inserts vitrés grâce à des aides type MaPrimeRénov. Autre mesure, le remenage va devenir obligatoire une fois par an et il y aura un label national pour certifier le bois ou les granulés avec une combustion moins polluante. L'idée, c'est de mettre dans le poêle des bûches bien séchées et non traitées plutôt qu'un vieux pied de table recouvert de vernis. Dans les territoires et agglomérations les plus pollués, ceux qui sont couverts par un plan de protection de l'atmosphère, les cheminées à foyer ouvert pourraient carrément être interdites en 2023. Les préfets décideront après concertation avec les collectivités. Cette interdiction entrera d'ailleurs en vigueur dès cet hiver au 1er janvier 2022 dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont-Blanc.
Les précisions de Sandy Dauphin. Elle dénonçait une hérésie environnementale et un calvaire grandissant pour les habitants. La commune de Ramatuelle remporte une première bataille judiciaire dans sa guerre contre les survols d'hélicoptères autour de Saint-Tropez. Le tribunal administratif de Toulon vient en effet de suspendre un arrêté préfectoral prévoyant 48 rotations d'hélicoptères par jour dans la zone. Le tribunal estime que le préfet n'est pas compétent pour réguler le trafic aérien. Dans le même temps, à plus de 15 000 km des côtes varoises. Une défaite pour l'environnement. La grande barrière de corail au large nord-est de l'Australie ne rejoint pas, en tout cas pour le moment, la liste des sites en péril de l'UNESCO. Le comité du patrimoine mondial en a décidé ainsi, malgré l'inquiétude de la communauté scientifique sur la dégradation du récif corallien. Il faut dire que l'Australie a déployé de gros efforts pour empêcher cette décision. Des efforts qui ont donc payé. La correspondance à Sydney de Grégory Pless.
Les multiples visites diplomatiques de la ministre australienne de l'Environnement ces dernières semaines, de Madrid aux Maldives, auront finalement été payantes. La grande barrière de corail, en dépit des nombreux rapports scientifiques soulignant l'impact du changement climatique sur son état, n'a finalement pas été classée site en péril. Une décision que déplore le professeur Ovi Hug Gullberg, directeur adjoint du Centre d'excellence d'études coralliennes.
On a besoin de se réveiller et de reconnaître que cet écosystème est en danger, et c'est ce qui rend le classement sur la liste des sites en péril si important, car c'est un mécanisme qui permet d'attirer l'attention sur ce problème et de le régler. On ne règle rien en le mettant sous le tapis et en prétendant qu'il n'existe pas. C'est une stratégie vouée à l'échec.
C'est pourtant celle qu'avait adoptée l'Australie en amont de cette échéance, préférant accuser l'UNESCO d'être sous influence politique. Mais l'Australie, qui par habitant émet trois fois plus de gaz à effet de serre que la moyenne des pays du G20, n'a au final gagné qu'un sursis. Elle a 6 mois pour produire un nouveau rapport sur l'état de la Grande Barrière et son cas sera de nouveau examiné lors de la prochaine réunion du Comité du patrimoine mondial l'année prochaine. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Ces gags en caméra cachée, ces canulars téléphoniques ont fait ricaner la France entière. On a appris aujourd'hui la mort de Jean-Yves Lafesse à l'âge de 64 ans. L'humoriste souffrait de la maladie de Charcot. Retour sur sa carrière avec Alexandra Hacoun.
Persuadé du goût des Français pour la farce, au même titre que la nourriture et les choses de l'amour, Jean-Yves Lafesse en avait fait son mantra, jusque dans son pseudo hérité de son enfance dans le Morbihan et d'un but marqué de la fesse gauche lors d'un match de foot. De son vrai nom Jean-Yves Lambert, ce fan de Des Proches s'était fait connaître dans les années 80 où sa répartie et sa tchatche incroyable avaient tout de suite collé avec l'esprit des radios libres en explosion, Carbone 14, Radio Nova, puis Europe 1. Ses canulars téléphoniques deviennent des classiques, comme celui de la gare de Monaco, où il parvient à faire dire aux préposés aux annonces.
Message personnel, la mienne est plus grosse que la vôtre.
Chef de gare de Monaco, bonjour. Qu'est-ce que c'est ce travail ?
Oui, c'est un DST à l'appareil.
Oui, oui, en gare de Monaco, on fait pas des trucs pareils, hein.
À la télé, Canal Plus à ses grandes heures puis d'autres, là aussi son humour fait mouche, moqueur mais jamais méchant, que ce soit en faux journaliste, avec le petit doigt en guise de micro ou en militant communiste à la boule, ses caméras cachées font glousser la France.
Ah bonjour ma chère.
Qui êtes-vous ?
Patrick, la section du Parti communiste de la boule. On s'est vu à une réunion.
Non, certainement pas, je vais pas aux réunions du Parti communiste.
Mais si camarade, enfin voyons, non, mais je me souviens très bien de vous. Alors, t'es en retard dans tes cotisations, c'est pour ça que tu fais la gueule.
Ces dernières années, il s'était lancé dans le spectacle, le cinéma. Jean-Yves Lafesse s'est éteint à Vannes. Un dernier pied de nez qui doit bien le faire rigoler.
Alexandra Hacoun pour France Inter. Le temps.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et la météo qui tourne à l'orage, Sébastien Léas.
Oui, Hélène, une nouvelle salve orageuse à bord de l'Ouest-Bretagne va progresser jusqu'à la Normandie et au Hauts-de-France durant la nuit. L'Auvergne, le Limousin et la Bourgogne verront aussi éclater des orages ce soir et cette nuit avec des risques de fortes rafales de vent et même de la grêle. La région de Vichy vient d'ailleurs d'essuyer un orage. On rappelle que 15 départements du Nord-Ouest et du centre du pays sont en vigilance orange pour ce soir et pour cette nuit. Demain matin, il faudra composer avec des averses et des orages sur le Nord-Est jusqu'à Rhône-Alpes ainsi qu'en Bretagne et le long des frontières belges. L'après-midi, la Normandie, les Pays de la Loire, voire l'ouest parisien et la Touraine seront aussi concernés par ce temps instable, alors que la matinée sera quand même plutôt lumineuse. Sur le reste du pays, les averses seront plutôt rares, malgré des nuages parfois nombreux, notamment en Occitanie. La Provence et la Corse auront un temps nettement plus ensoleillé. La chaleur va persister sur la façade est, de 29 à 35 degrés pour demain après-midi. En revanche, ailleurs, les températures vont dégringoler, prévoyez 22 à 27 degrés.
Merci Sébastien Léas de Météo France.